Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Il nous arrive du Maroc où presque après 10 ans, comme unique diacre de ce vaste et beau pays, notre homme est de retour en Ariège, son pays natal, lui. Un ancien militaire qui depuis sa retraite ne cesse de se dépenser pour servir et aimer les plus pauvres d'entre nous. Un bel exemple, au dire même, de ses proches. Une vie qui a basculé un jour après avoir mis Dieu au défi de se révéler et Dieu, si humble, a répondu. Un rendez-vous, le rendez-vous d'une vie dont on ne se remet jamais. Parole d'un diacre, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Autour du plateau, eh bien, il n'y a que vous, et tant mieux, Arnaud de la Portalière, vous êtes donc diacre du diocèse de Pamiers et auteur d'un ouvrage publié à compte d'auteur intitulé « Enquête sur une ombre suivie de fausses routes ». Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venu ce matin dans les studios de Radio Présence. Donc cette émission intitulée « Parole d'un diacre », on aurait pu dire aussi « Coup de gueule ». On le verra au long du parcours de cette émission. Allez, on va commencer tout simplement, on va se plonger dans votre livre. C'est donc un recueil de réflexions. Peut-être même y avait-il là-dedans des homélies. Et puis, dans la deuxième partie de l'ouvrage, la partie qui s'intitule « Fausse route », vous m'expliquez ça en préparant l'émission, c'est un peu un retour suite à votre le temps que vous avez passé au Maroc. Vous voulez expliquer un peu quelle est la fausse route que l'on peut faire dans notre vie chrétienne. J'aimerais qu'on commence juste par « Enquête sur une ombre ». Vous commencez donc par une méditation autour d'un homme qui peut paraître anodin dans l'évangile. C'est un homme qui porte une cruche d'eau, c'est dans l'évangile selon saint Marc. Jésus dit à ses disciples d'aller préparer la Pâque et il leur donne comme indication « vous irez à la rencontre d'un homme qui porte une cruche d'eau ». Pourquoi cet homme vous a-t-il autant intrigué, Arnaud de la Portalière ?
Il y a quelques années, j'ai rencontré un prêtre orthodoxe qui disait que souvent dans les évangiles, dans les Écritures, il y avait des passages qui paraissaient obscurs et qu'il ne fallait pas passer dessus, il fallait creuser parce qu'il y avait sûrement une nourriture à y trouver. Il ne faut pas dire ça n'a pas de sens, c'est passé sans intérêt. Alors je me suis arrêté à cet homme à la cruche, qui est un homme curieux, un homme qui porte une cruche d'eau. C'est une tâche servile, c'est pas, ou une tâche de femme, mais on ne voit pas un homme portant une cruche d'eau. Donc je me suis penché sur cet homme en me demandant qui est cet homme. Pourquoi est-ce que Jésus a choisi comme signe pour ses disciples un homme portant une cruche d'eau?
Et alors, quelle est la réponse? Donnez-nous le début de la réponse, parce que c'est un peu le fil rouge de votre ouvrage. Pour vous, cet homme, c'est Jésus lui-même.
La réponse,
en fait,
si on suit le cheminement que j'ai pris, c'est l'homme à la cruche, c'est Jésus. Donc il n'y a que lui qui connaisse la maison où nous mangerons la Pâque. La Pâque là-haut, il est le chemin, nul ne va au Père que par moi. Donc si je suis l'homme à la cruche, je marche à la suite de Jésus et j'arriverai à la Pâque céleste.
Voilà, et c'est dire déjà l'humilité de Jésus que l'on voit à travers votre livre, comme dans les évangiles évidemment, puisqu'il fait, comme vous dites, une tâche qui est normalement dévolue au serviteur ou une tâche de femme, même s'il n'y a pas aucune comparaison entre les deux. Au début de cette émission, on va faire connaissance un petit peu plus avec vous, histoire d'entrevoir l'homme que vous êtes, parce qu'on n'a pas la prétention en une heure de faire le tour d'une personne. Vous êtes né en 1941, vous avez donc 79 ans, vous êtes né à Muret. Vous m'avez brièvement parlé de votre famille, vous me disiez voilà, c'était une famille chrétienne, vous êtes issu d'une famille chrétienne, on va dire, solide. Il y a de la Portalière dans notre pays, il y a un prêtre qui est passé à cette antenne, qui est aussi du diocèse de Pamiers. Qu'est-ce que vous retiendriez de votre enfance ou de votre adolescence qui pourrait nous aider à vous situer?
J'ai passé mon enfance surtout en Allemagne jusqu'à la 6e. Après, j'ai été élevé chez les pères jésuites à Stanislas et au Caouzou.
À Toulouse, donc?
À Toulouse. Pas intégralement. Au cas où, on m'a mis à la porte parce que je ne voulais pas aller à la messe tous les matins. Il y avait la messe tous les matins et cette messe servait à réviser les leçons ou choses comme ça, et ça me paraissait inutile. Il fallait mieux nous mettre en étude. Et à la fin de la première, le père préfet, que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup aimé, et que j'ai aimé jusqu'à sa mort, m'a demandé de passer ma terminale ailleurs, et je terminais mes études à Fermat.
Donc c'est une autre manière de dire que vous étiez pas, vous aviez pas forcément fait une rencontre de Dieu étant enfant. Vous me disiez à propos de la messe que le souvenir que vous aviez étant enfant de la messe, c'était que votre père parlait trop fort, c'est ça, ou chantait trop fort? Expliquez-moi.
Non,
ça.
Non, mon père et ma mère chantaient à la chorale. Ça, c'était en Allemagne. Papa chantait très très fort. Et maman qui était à côté, il essayait de la faire taire parce qu'il trouvait qu'elle chantait faux.
Voilà, donc ça c'est pour, on va dire, pour les souvenirs d'enfance ou de la vie chrétienne.
Mais vous... j'ai gardé du Kaozu, j'ai gardé l'amour de l'évangile. Il y a un évangile qu'on entendait très souvent chez les pères jésuites. C'était l'évangile pour les docteurs de l'Église. Et comme dans notre Église, il y a beaucoup de docteurs, c'est un évangile qui revenait très régulièrement. Et je l'ai tellement entendu que je le connais par cœur. Vous êtes le sel de la terre.
Vous avez donc après été militaire, vous avez été donc officier pendant 28 ans dans l'armée de terre, vous avez fini lieutenant-colonel, et puis en 1989 vous quittez l'armée, voilà, et puis vous allez vous donner, on en reparlera, à de multiples services. Vous avez été responsable du secours catholique pour le diocèse de Pamiers donc pendant 6 ans, vous avez été aumônier de prison pendant 37 ans, vous avez accompagné les gitans pendant une dizaine d'années, et puis on parlera aussi de ce que vous avez vécu au Maroc. Bref, une fois votre retraite prise, vous êtes mis au service et vous avez été appelé donc plusieurs fois au diaconat. Alors vous me disiez que la première fois vous compreniez pas très bien ce que c'était, donc vous avez dit merci, bonsoir. Racontez-nous la manière dont ça s'est finalement fait. Quand est-ce que vous avez été quand est-ce que vous avez fini par répondre à cet appel?
La première fois que j'ai été interpellé pour le diaconat, j'étais au coin du feu avec le vicaire épiscopal de mon coin, et Marie-Josée était en train de ranger les assiettes à la cuisine.
Marie-Josée, c'est votre épouse,
c'est
non?
C'est mon épouse, oui. Et quand le père Maxime m'a parlé du diaconat, ma femme a hurlé depuis la cuisine, « Non !» Donc on en est resté là.
Mais ce qui veut dire qu'elle savait ce que c'était, elle, ou elle avait peur des suites et des conséquences?
Oui, elle pensait qu'il n'y avait pas de raison que moi on me prenne et qu'on la laisse en plan, voilà. Donc, on en est resté là pendant plusieurs années. Et plusieurs personnes ont dit, tiens, Arnaud, quand même, ça ferait un bon diacre. Moi, j'ai jamais rien dit, j'ai laissé faire. Jusqu'au jour où un frère handicapé, dans la montagne en-dessus de Limoges, il y avait des franciscains handicapés, une communauté de frères. Et l'un de ses frères, le frère Michel, qui était profondément handicapé, a dit à Marie-Josée, « Tu sais, ton mari, ça ferait un bon diacre. »
Et là, ça l'a décidé.
C'était une parole qui venait d'en bas. C'était pas une parole qui venait d'en haut. Et Marie-Josée m'a dit, « Bon, si un jour on t'interpelle, tu répondras. » Donc, il n'y avait plus d'appel, c'était en plan. Et peut-être 2 ans ou 3 ans après, le diocèse de Pamiers m'a interpellé. À ce moment-là, j'ai répondu oui. Et j'ai été ordonné en 92.
Vous avez été ordonné diacre en 92, donc pour le diocèse de Pamiers. J'aimerais que vous nous parliez de votre conversion. Vous n'avez pas toujours été chrétien, et quand vous étiez militaire, vous allez nous raconter, vous étiez avec des hommes au Maghreb, et l'attitude d'un homme a réveillé une question dans votre cœur. Racontez-nous cet épisode.
Oui, je servais comme officier au Maroc, comme instructeur, et j'avais à instruire de jeunes Sahraouis. Et j'en avais une centaine à peu près, c'était un commando motorisé. Et un jour, nous sommes partis faire un exercice un peu long, et je ne sais plus pourquoi, on n'avait pas fait assez de provisions d'eau. Et on s'est retrouvés dans une zone semi-désertique ou désertique, à souffrir de la soif. Ça a duré 3 jours. Et on économisait le peu d'eau qu'on avait. À un moment, nous sommes arrivés à un puits qui s'appelle Birsmara, Et les hommes se sont précipités sur ce puits, ont rempli des seaux d'eau, se sont arrosés, douchés, ont bu. Ils faisaient les fous. C'était des jeunes, fous qui ont enfin trouvé de l'eau. Et j'ai vu un vieux sous-officier prendre une boîte de conserve, prendre de l'eau, puis s'éloigner un peu, faire ses ablutions et faire sa prière. Alors, j'étais surpris parce que c'était pas du tout dans l'air du temps. Tout le monde faisait autre chose, tout le monde se réjouissait de pouvoir boire.
Et ça a suscité une question chez vous.
Et ça, je me suis demandé, j'ai dit, cet homme, qu'est-ce qu'il fait? Il est fou. Et puis un moment après, je me suis dit, mais est-ce que lui n'est pas sage et nous les fous? Et il avait mis Dieu en premier dans sa vie. Avant d'étancher sa soif, il fallait qu'il fasse sa prière. Rendre grâce à Dieu, je ne sais pas quel était son sentiment, mais c'était prier. Et j'ai pris conscience qu'il avait mis Dieu premier dans sa vie. Et quand j'ai regardé la mienne à ce moment-là, je me suis aperçu que Dieu n'était pas second ou troisième ou quatrième, mais Dieu n'avait aucune place dans ma vie.
Alors du coup, vous êtes décidé, quand vous êtes revenu en France, à faire une retraite. C'était donc avec des jésuites. Vous m'avez dit en préparant l'émission que jésuites vous connaissiez. Retraite, ça vous disait quelque chose. Vous êtes inscrit, mais que cette retraite ne vous intéressait pas tant que ça. Ce qui vous intéressait, en fait, c'était de savoir si Dieu existait ou pas, s'il était possible de le rencontrer. Et comme vous êtes un homme de tempérament, racontez-nous la suite. Vous êtes assis, en fait, dans un gymnase en attendant que Dieu vienne, c'est ça ?
Oui, c'est pas aussi rapide.
C'est pas aussi rapide, mais c'est une émission de radio,
oui.
Donc voilà.
Entre l'homme qui a pris sa boîte de conserve et qui a prié et ma rencontre du Seigneur, il s'est passé 3 ans. Donc pendant 3 ans, j'ai eu soif, vraiment soif. Et j'étais à la communauté du puits de Jacob. C'est quand même significatif. Un puits, c'est là où on boit. Donc je suis allé à cette communauté, j'ai vu qu'il y avait une retraite prêché par un père jésuite, et ça me parlait. Donc je suis allé à cette retraite, mais avec une seule idée, c'était savoir si Dieu existait. Est-ce que tu existes ? Et quand la retraite a commencé, je ne me suis pas du tout intéressé à la retraite, je me suis mis dans un coin de la grande salle de gymnase qui servait de salle de réunion, je me suis assis là sur un petit banc, et j'ai dit au Seigneur, on a 2 jours, où tu existes et tu viens ? Ou tu n'existes pas, ben je continuerai ma route. Et je suis resté là. Donc c'était le samedi après-midi et le samedi soir. Toute la nuit du samedi au dimanche, je suis resté sur mon petit banc. Et à un moment, j'ai trouvé une Bible qui était sur une chaise à côté. Et dans cette Bible, quand je l'ai ouverte, j'ai trouvé un texte qui est dans l'Apocalypse. C'est la lettre à l'église de Sardes. Toi, je te connais, tu as l'air vivant, mais tu es mort. C'était dur. Alors, je me suis mis en colère contre Dieu. J'ai dit, qu'est-ce que tu me racontes ? Si je suis mort, qu'est-ce que je peux y faire ? Si je suis mort, tu n'as qu'à souffler sur la braise et le feu reprendra. Il ne fallait pas dire ça, parce que souffler, pour Dieu, ça a un sens. Pour moi, ça n'avait aucun sens à ce moment-là. Donc, je suis resté là, sur mon petit banc, jusqu'au dimanche, en fin d'après-midi. Et en fin d'après-midi, vers 18h, je ne sais pas ce qui s'est passé, je n'ai rien vu, rien entendu, rien touché, rien senti. Et j'ai su non pas que Dieu existait, mais que moi j'existais pour Dieu. Alors ça, c'est bouleversant. Et ça a complètement changé ma vie.
Et vous en êtes jamais remis, c'est ce que vous me disiez en préparant l'émission, et on peut comprendre pourquoi. Avant qu'on fasse une première pause, j'aimerais revenir sur un passage dans votre livre. Alors c'est donc dans Fausses Routes, deuxième partie de votre ouvrage, qui pour vous est un peu le leitmotiv de cette relecture de vie, d'une certaine manière, qui est ce petit livre. C'est quand Dieu nous adresse l'appel à devenir pêcheur d'hommes. Alors il l'adresse d'abord à ses apôtres, mais il l'adresse aussi à l'Église et à chacun des baptisés. Et vous avez une manière de relire ce passage qui est, on va dire, radicalement différente au regard de votre expérience de vie, et particulièrement des 10 ans que vous avez passés au Maroc. Expliquez-nous.
C'est l'appel que Jésus adresse à Simon-Pierre et à André, son frère. Ce sont les deux premières cellules de l'Église. C'est la division cellulaire, 1, 2, 4, etc. Et là, c'est Jésus 1, après Simon-Pierre et André, après Jacques et Jean. Et à cette première cellule, Jésus donne sa mission. « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Comment est-ce que ce n'est pas au centre de la pensée de l'Église que notre mission, c'est d'être en permanence, avoir en permanence le souci des hommes et des femmes qui se noient. Alors, il y a ceux qui se noient du côté de Lampedusa ou entre l'Espagne et le Maroc, mais il y a une foule d'hommes et de femmes à travers le monde qui se noient dans toutes sortes de misères et de souffrances. Et la mission de l'Église, pour moi, c'est d'être tourné vers le monde comme Dieu est tourné vers le monde, avoir le souci du monde comme Dieu a le souci du monde, et aller repêcher tout ce qui se noie.
C'est-à-dire, vous laissez entendre qu'on a aujourd'hui une manière, en fait, de comprendre ce pêcheur d'hommes qui n'est pas la bonne.
Mais c'est pas qu'on la comprend pas, c'est qu'on s'en occupe pas. Vous avez déjà entendu prêcher sur les pêcheurs d'hommes ? Moi, jamais. J'ai bientôt 80 ans, j'ai jamais entendu une prédication sur « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ».
Pêcheurs d'hommes, vous dites que si on interrogeait des paroissiens, ils diraient que pêcheurs d'hommes, ça veut dire contribuer à aider les hommes à sortir de leur péché.
Du péché, voilà. Notre obsession, c'est le péché. Il faut sortir les hommes du péché. Mais les hommes, à travers le monde, ils se noient dans toutes sortes de souffrances et de misères. Tout à l'heure, vous m'avez dit, il y a 1 milliard d'hommes dans le monde qui vivent dans des bidonvilles.
Oui, je vous disais ça en préparant l'émission. Oui.
Ben, il y a quelques chrétiens isolés par-ci, par-là, qui s'en soucient. Mais ce n'est pas le souci premier de l'Église.
On va y revenir, parce que aujourd'hui l'Église, conduite par le pape François, donne quand même un cap qui est clair. Pape François, d'ailleurs, que vous avez croisé lorsqu'il est allé au Maroc, c'était en mars dernier. On va parler rapidement de cet épisode, et puis on parcourra votre livre et certaines de méditations de vos évangiles, de l'Évangile. Mais on entend que vous voulez, à votre manière, contribuer à remettre l'Église à l'endroit, comme d'autres et comme le pape nous y presse. On fait une première pause musicale et on vous retrouve.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Parole d'un diacre, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Nous sommes avec Arnaud de la Portalière, qui est diacre du diocèse de Pamiers, auteur d'un petit livre publié à compte d'auteur intitulé « Enquête sur une ombre suivie de fausses routes ». On vous a donc présenté dans cette première partie. Avant d'aller plus loin, j'aimerais qu'on revienne rapidement sur la rencontre qui a été la vôtre avec le pape François. Rencontre, en tout cas, vous avez servi la messe à côté de lui. Pour rappel, le pape François était donc au Maroc, c'était en mars dernier. Voyage dont on avait fait écho, d'ailleurs, je crois, à cette antenne. J'ai retenu deux, trois choses de sa visite. Et je commencerai par celle-là pour faire écho à ce que vous avez partagé dans la première partie. Dans un article du journal La Croix que j'ai retrouvé parmi les archives, une religieuse disait combien elle avait été touchée par les paroles du pape, qui avait déclaré entre autres « J'ai connu beaucoup de personnes migrantes qui sont mortes en mer, ce ne sont pas des chiffres, c'est une souffrance, et la visite de François donne espoir, c'est une bénédiction », rajoutait cette sœur. Le pape François, vous avez l'impression qu'il donne quand même le bon cap? Il contribue, comme son l'homme dont il porte le nom, le saint dont il porte le nom, à remettre l'Église à l'endroit ou pas?
Tout à fait, tout à fait. Je me souviens que tout de suite après son élection, quelques jours après, il est sorti du Vatican pour aller dans Rome et il n'est pas allé rendre visite au maire ou aux quelques autorités politiques. Il est allé dans une prison. Il a lavé les pieds d'hommes et de femmes, dont une musulmane.
Vous rappelez aussi que son premier voyage apostolique, ça a été d'aller à Lampedusa.
Voilà, ça c'est la première fois où il est sorti de Rome, Lampedusa, pour attirer l'attention du monde, pas seulement des chrétiens, mais du monde sur le sort des migrants. Je viens de passer 10 ans au milieu des migrants. J'ai été responsable d'un centre d'accueil de migrants à Meknès. Le livre que j'ai écrit, il est destiné, les fonds que je pourrais récolter, est destiné à ce centre d'accueil des migrants. On n'arrêtera pas la migration. J'ai vu un jour, en Limousin, un vol de grues la nuit. Impressionnant. Des milliers et des milliers de grues qui viennent en-dessus de la ville, qui tournent et qui repartent vers le sud. Et puis une autre vague arrive et va vers le sud. Là, ce sont des vagues qui arrivent et qui viennent du sud et qui vont vers le nord. On n'arrêtera pas plus la migration des migrants que celle des grues. Tant qu'il y aura chez nous l'opulence que nous connaissons et la misère là-bas, il y aura des migrations. Et quand on voit le sort des migrants au Maroc ou ailleurs, au Maroc, ce n'est pas la Libye, ils sont un peu mieux traités, mais les souffrances des migrants. J'ai vu arriver des migrants avec des fractures du crâne, les jambes cassées, les bras cassés, un œil perdu. Tout ça parce qu'ils essaient de passer et qu'on les refoule.
Vous me disiez que les migrants, ils rêvent d'être gilets jaunes, tous ceux que vous avez croisés là-bas. Dites-nous un mot là-dessus.
Oui, parce qu'on pense qu'en France, il y a des pauvres. En France, il n'y a pas de pauvres. Il n'y a pas de pauvres. En France, si vous êtes pauvre, vous avez une multitude de parachutes pour vous éviter de tomber trop fort. Il y a la hache, il y a le RMI, le RSA, toute une série de dispositifs. Des dispositifs municipaux, associatifs, il y a tout ce qu'il faut. Mais en Afrique, vous tombez, il n'y a rien pour vous retenir. Si vous trouvez Caritas, vous avez de la chance, parce que hors de Caritas, il n'y a pas beaucoup d'associations, enfin en tout cas au Maroc. Si vous trouvez Caritas, vous avez une chance de vous en sortir. À Meknès, le centre d'accueil était spécialisé dans l'accueil des migrants blessés. Et les migrants le savaient, que s'ils avaient quelque chose, ils venaient à Meknès. Mais là-bas, il n'y a quasiment rien. Quasiment rien. J'ai vu des femmes migrantes accoucher sur les carrelages par terre. Parce qu'elles sont noires et que... Bon, dans les maternités, on ne veut pas qu'une noire accouche à côté de ma femme qui est claire.
J'aimerais que vous nous disiez un mot aussi du pape François, parce que donc, vous avez servi la messe donc, à Rabat lors de son voyage au Maroc, et ce que vous me racontiez est à partager aux auditeurs. Vous avez été frappé quand vous l'avez vu, parce qu'il avait l'air extrêmement fatigué. C'était en tout cas votre première impression.
Voilà. J'ai très peu vu le pape François, sinon à la messe. De son voyage, je n'ai vu que ça. Parce que les instances du Vatican font des répétitions nombreuses pour la célébration eucharistique. Et j'étais très pris par les répétitions, ce qui fait que je n'ai vu le pape que lors de la messe. Et encore, toute la partie procession, je ne l'ai pas vu parce que j'étais juste devant lui avec l'évangélière. Et lui était derrière moi. Donc je ne l'ai vu que lorsque j'ai posé l'évangélière sur l'autel et qu'il a commencé à encenser l'autel et puis une statue de la Vierge et la croix.
Alors qu'est-ce qui vous a frappé ?
Voilà, comme je marchais derrière lui, j'ai remarqué son pas un peu traînant. Il levait à peine les pieds, un peu voûté, et des gestes lents et la tête un peu basse, un regard très fixe. Une lourdeur. Alors, j'ai pensé que d'abord qu'il y avait l'âge, et puis je savais qu'il avait un problème de jambes. Et puis, après, il m'a paru évident que ce qu'il portait sur ses épaules, c'était le poids de l'Église, et le poids du péché de l'Église. Toutes ces affaires de pédophilie et autres, financières, tout ça, c'est un poids pour lui.
Un homme écrasé par le poids de la charge.
Écrasé, pas écrasé, non, voûté. Il y a une photo de lui qui est sur la couverture, je crois, du bulletin diocésain du Maroc, où on le voit debout, la tête appuyée sur la croix. Il porte la croix qu'avait le pape Jean-Paul II. Et il appuie sa tête sur cette croix. Et là où il appuie la tête, la croix est tordue, comme si le poids de son appui faisait tordre le manche de cette croix. Mais son regard, il a un regard qui est parfaitement horizontal. Il n'a pas le regard par terre, il a le regard horizontal comme s'il regardait toute la route qui lui restait à parcourir. Et en s'appuyant sur la croix, il ira au bout de la route. Et ce qu'il faut, c'est qu'il y ait autour de lui des Simon de Cyrène.
Qu'il
aide à porter sa croix. Charge. Par la prière, mais par ce qu'on peut faire pour lui, pour l'aider dans son ministère.
Simon de Cyrène, peut-être est-ce en naissant, pour finir à propos de votre passage au Maroc, l'archevêque de Rabat, justement, et un Espagnol, Monseigneur Cristobal López Romero, a été nommé cardinal récemment par le pape François. Voilà ces hommes qui entourent le pape dans ce qu'on appelle le sacré collège. J'aimerais qu'on se plonge un petit peu dans votre livre, puisque toute la première partie, donc, c'est des méditations que vous proposez. Un recueil de méditations. Il y en a une qui s'appelle Naïma revient. Et j'aimerais que vous nous racontiez l'histoire de cet homme. C'est un homme donc, qui la nuit, lançait dans la rue « Naïma, Naïma, où es-tu ? Naïma revient ». Et cet homme, on va dire, tout le monde lui demandait de se taire, hein, comme dans d'autres passages de l'Évangile. Et vous y avez entendu une autre voix. Racontez-nous cette histoire.
Oui, c'est lors de mon premier séjour au Maroc, il y a très longtemps, lorsque j'étais dans l'armée. Une nuit, nous avons été réveillés par la voix d'un homme qui passait dans la petite ruelle où nous habitions et qui criait « Naïma, Naïma, où es-tu ? Naïma, reviens !» Et il criait ça en français, je ne sais pas pourquoi, il criait en français. C'était un vieux Marocain. J'ai demandé au voisin qui était cet homme, et on m'a dit que c'était un vieux qui s'était marié avec une jeune Marocaine.
Un Chibani, on dit, c'est ça là-bas.
Un Chibani, oui. Voilà, un Chibani, un vieux, un Chibani. On m'a dit c'est un Chibani. Et sa jeune femme, qui s'appelait Naïma, un jour a disparu. Et cet homme, la nuit, il parcourait les ruelles en criant, en appelant sa bien-aimée. Et plus tard, en repensant à cet homme, j'y ai vu le Dieu qui n'est pas tout jeune, et qui passe ses nuits à chercher la créature qui est partie. Et depuis les origines, depuis Adam, Dieu nous cherche. Il cherchait « Adam, où es-tu ? Adam, où es-tu ?» Et aujourd'hui encore, il cherche ses enfants qui se sont cachés ou qui ne le connaissent pas ou qui l'ont fui.
Il les cherche envers et contre tout, dans la nuit, et en criant comme ça, comme...
Oui.
Alors, avec amour et désespoir, c'est ça qu'il faut entendre ?
Voilà, avec amour. Et avec amour et par nécessité. Et nous sommes ses enfants, il nous aime parce que nous sommes ses enfants. Mais la nécessité, c'est que Dieu est polyhandicapé. Dieu n'a ni main, ni bouche, ni oreille, ni pied. Et en permanence, il cherche, dans une parabole, je crois que c'est Matthieu 20, on nous dit que Dieu est comme le maître d'une grande vigne et qu'il sort sur les places du village du matin au soir et il cherche, il appelle des ouvriers pour travailler à sa vigne. Parce que s'il n'y a pas d'ouvriers, cette vigne qui est le monde reste en friche. Donc il cherche le jour et la nuit, il cherche par amour, mais par nécessité, parce qu'il a besoin de nos bras. Rien ne se fera ici-bas que par des hommes habités par l'Esprit de Dieu et qui font l'œuvre de Dieu. S'il ne trouve pas, il ne peut rien faire.
Dieu qui est un polyhandicapé, c'est une belle image. J'aimerais qu'on parcourt un autre chapitre. Ce chapitre s'appelle Jéricho. Il parle de Bartimée. Certains connaissent ce Bartimée, mendiant aveugle assis à la porte de la ville de Jéricho, qui, quand Jésus vient à passer, c'est dans l'évangile de Marc, qui crie « Fils de David, aie pitié de moi !» Et Jésus l'appelle, et puis un dialogue se noue entre cet homme et Jésus, cet homme, donc, pour rappel, qui est aveugle. Vous y faites là une méditation sur la foi. Qu'est-ce que vous pourriez nous redire de ce que vous avez compris dans ce passage à propos de la foi ?
Quand je faisais le catéchisme à des jeunes ou l'aumônerie, plusieurs fois, je leur ai proposé de jouer cet épisode. Ça veut dire qu'on mettait un bandeau sur les yeux d'un des jeunes pour qu'il ne voit rien. Et on se mettait en groupe au-dessus de l'un d'entre nous et on appelait l'aveugle à rejoindre Jésus. Et l'aveugle n'y arrivait jamais, le jeune n'y arrivait jamais parce qu'il ne voyait pas. Au milieu d'une grande foule, comment est-ce qu'il va le trouver ? Il ne le trouve pas. Il touche des tas de gens, mais avant qu'il trouve le bon. Et dans cet épisode de l'Évangile, on nous dit que Bartimée, il bondit, il va en courant, et il arrive à Jésus au milieu d'une grande foule, sans voir. C'est ça la foi. Ta foi t'a sauvé. C'est la foi, je le raconte, je le dis dans ce passage, c'est la foi de Mère Teresa. On nous dit que Mère Teresa, les dernières années de sa vie, elle vivait dans une nuit profonde. Et pourtant, elle a couru vers le Seigneur. Thérèse de Lisieux, c'est pareil, elle pensait même qu'elle était damnée, tellement la nuit était noire. Eh bien, beaucoup d'entre nous, nous ne vivons pas la clairvoyance de Jésus. Nous ne le voyons pas. Nous avons le sentiment qu'il n'est pas là, qu'il est parti, qu'il nous a laissé, qu'il nous a abandonné. Et pourtant,
Il faut marcher.
Il faut courir même.
Il faut
entendre.
Courir.
Il faut courir comme un aveugle qui bondit au milieu d'une foule sûre du but qu'il cherche à atteindre. Avant qu'on fasse une deuxième pause, un autre chapitre s'appelle L'ânesse et l'ânon. J'ai trouvé ce passage très, très beau, parlant de ce Dieu que vous avez rencontré et que vous essayez de suivre. C'est donc Jésus qui rentre dans Jérusalem, acclamé par les acclamations du Hosanna, ce sont des passages des Écritures qu'on relit à l'occasion de la Semaine Sainte. Et souvent, on sait qu'il est monté sur un âne, on entend la signification, mais vous allez encore plus loin, vous dites que c'est un ânon sur lequel est monté Jésus. Et vous nous expliquez la méditation que vous en tirez. Dites-nous, ânon, ânesse, quelle différence ?
Voilà. C'est dans l'évangile de Matthieu. Les autres évangiles parlent d'un ânon. Mais Matthieu nous parle d'une ânesse et de son petit. Et sur les deux, les disciples ont disposé leur manteau. On pense... Et si vous regardez l'iconographie, lorsque vous voyez une peinture ou une icône représentant Jésus avec un ânon et une ânesse, on voit Jésus monter sur l'ânesse. À une réunion avec les prêtres de Casablanca et avec notre évêque, tout le monde était d'accord pour dire « Oui, oui, Jésus est monté sur l'ânesse, pas sur l'ânon, parce qu'il va lui casser les reins. » Et pourtant, tous les textes nous disent que Jésus est monté sur l'ânon.
Et seuls les enfants peuvent monter normalement sur les ânons.
Seuls les enfants peuvent monter sur un ânon. Non, si vous ne devenez comme un enfant. Mais il y a cette ânesse qui a été équipée pour porter quelqu'un. Et cette ânesse qui a été équipée pour porter quelqu'un, c'est une ânesse qui nous est destinée. Nous sommes encombrés de notre moi, de nos biens, de nos richesses. Nous sommes lourds. Et même avec la grâce de Dieu, nous casserons les reins de l'ânon. Donc nous, si nous voulons suivre Jésus, aller à Jérusalem avec lui et entrer dans la gloire, il faut accepter d'être comme on est, accepter de monter sur l'ânesse et suivre Jésus comme on est. Parce que c'est la tête, c'est prévu. Jésus a pensé à nous. Parce que sa grâce aidant, même sa grâce aidant, nous ne monterons jamais sur un ânon.
Est-ce que vous pouvez aussi parler du Dieu que révèle cette méditation de l'Évangile et plus largement l'Évangile ? Vous avez un passage comme ça à la fin de votre livre, ou deux passages où vous parlez d'un Dieu méchant. Vous reprenez dans votre bouche cette adresse que l'on peut avoir à l'égard de Dieu. Qui est ce Dieu que vous avez rencontré, que vous essayez de suivre ? C'est un Dieu qui monte sur un ânon.
Oui. Vous m'interrogez sur le Dieu méchant ?
Non, je ne vous interroge pas sur le Dieu méchant. Je vous demande plus largement qui est ce Dieu que vous essayez de suivre depuis ce jour où vous l'avez rencontré dans un gymnase, lors d'une retraite. Parce que parmi nos auditeurs, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se posent des questions, qui cherchent Dieu, qui ont peut-être une mauvaise image de Dieu. À quoi ressemble-t-il ce Dieu au regard de cette méditation que vous avez proposée ?
La plus belle image que j'ai de Dieu dans les évangiles, c'est le Père. Le père du fils prodigue, celui qu'on appelle le fils prodigue, le père qui a deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part d'héritage qui me revient. » Et le père partagea son bien. Ce père-là, pour moi, il est vraiment l'image du Dieu, de notre Dieu. Le moment le plus important de toute cette histoire, c'est le moment où le fils, rentrant en lui-même, se dit... Les ouvriers de mon père, etc., ont du pain, et moi je suis là à mourir de faim, je vais revenir et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, etc. Bon. Et le père, on nous dit que le père le vit alors qu'il était encore dans le lointain. Le fils était parti dans un pays lointain. Et le père le voit quand il se lève dans le pays lointain. Ça veut dire que le fils, il n'a pas fait beaucoup de chemin. Le père le rejoint quand il est encore auprès de ses cochons, là-bas. Et peut-être qu'il a fait quelques mètres, mais c'est Dieu qui fait le chemin jusqu'à nous. Et ce que fait le père, c'est qu'il le prend dans ses bras, il le couvre de baisers, Et il dit à ses serviteurs, allez chercher le plus beau vêtement, mettez-lui des sandales, la bague, etc. Et là, il y a un silence. Le silence, c'est que dans notre logique, Dieu aurait dû dire à ses serviteurs, allez le laver, passez-le au karcher, mettez-le à la douche, au hammam. Il sent mauvais, il est plein du fumier des cochons. Et le père dit, mettez-lui le plus beau vêtement. Ça veut dire que quand le fils sort des bras du père, il est propre. Il a pris sur lui toutes nos mauvaises odeurs. Il a pris sur lui notre péché. Et après, on peut faire la fête. Ce qui est essentiel, si tu pêches, jette-toi dans les bras de ton père. C'est le pressing. C'est la parfumerie.
On va faire une deuxième pause et puis on va vous retrouver. Je rappelle le titre de votre livre, Enquête sur une ombre suivie de fausses routes, édité à Compte d'Auteur. Et vous m'avez dit donc aussi les bénéfices de la vente de ce livre.
Pour les migrants de Meknès.
Serviront pour les migrants de Meknès. On va faire une deuxième pause. Enquête sur une ombre suivie de fausses routes. Ça doit se trouver sur Internet. On tape tout simplement le titre de l'ouvrage et puis ça nous conduira vers le lieu où l'acheter.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Parole d'un diacre, c'est donc pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin avec Arnaud de la Portalière, diacre du diocèse de Pamiers, auteur d'un ouvrage pour ceux qui nous rejoindraient, Enquête sur une ombre suivie de fausses routes. Le diacre, on va en parler, et puis je vais rebondir tout simplement sur ce que vous me disiez pendant la pause. Vous me disiez aussi que donc vous avez exercé, je ne sais pas si c'est le terme, comme diacre pendant de longues années, vous avez aussi des responsabilités, on va dire régionalement, et puis vous avez participé à d'autres responsabilités nationales. Bref, comment est-ce que vous présenteriez le diacre ? Vous me disiez que Jésus n'a jamais été prêtre, prophète et roi, mais il a été diacre. Alors expliquez-nous.
C'est le seul titre que Jésus ait porté. Est-ce que tu es le prophète ? Il disait non. Et quand on veut le faire roi, il s'enfuyait au désert. Il a été serviteur. Alors on nous dit que par le baptême, nous sommes prêtres, prophètes et rois. Moi, je veux bien. Mais si je ne suis pas d'abord serviteur, je ne serai pas un roi, je serai un tyran. Je ne serai pas un prêtre, je serai un gourou. Je ne serai pas un prophète, je serai un tribun. Donc il nous faut d'abord être serviteur avant d'être prêtre, prophète et roi. C'est le vêtement, pour moi, le vêtement baptismal, c'est le vêtement du serviteur.
Alors d'ailleurs, il vous est arrivé une chose dans votre vie où vous avez participé à un lavement des pieds. Dans une abbaye pas très loin d'ici, une trappe, comme on dit, Sainte-Marie du Désert, à 30 ans d'intervalle. Vous le citez dans votre ouvrage, c'est évidemment l'image que l'on prend souvent pour celle pour du diacre. Est-ce que vous pouvez nous raconter cet épisode et surtout l'écho que ça a eu dans votre cœur ?
Oui, quand j'étais jeune, j'allais assez souvent à Sainte-Marie du Désert. J'avais un oncle qui avait été moine à Sainte-Marie du Désert, qui est un peu le saint familial. Et qui est mort en 40 à 23 ans.
Joseph-Marie Cassan.
Non, il s'appelle Arnaud de la Portalière. Il n'est pas bien heureux ni saint, mais c'est notre saint familial. C'est à lui, je pense, que nous devons beaucoup de vocations dans la famille. Et donc j'allais, quand j'étais jeune, assez souvent à Sainte-Marie du Désert. Et la dernière fois, j'y suis allé avant de partir à l'armée, donc je devais avoir 18 ans, 19 ans. Pendant le repas à l'hôtellerie, le père hôtelier est venu me dire discrètement à l'oreille pour le lavement des pieds, le père abbé veut que vous soyez présent. Donc je me suis retrouvé dans le cloître de l'abbaye, me faire laver les pieds avec des frères et des pères par le père abbé. Et puis après, il y a eu une trentaine d'années se sont écoulées. Et un jour, je suis allé faire une retraite, ma première retraite après l'armée, donc dans les années 80, par là. Je suis allé faire une retraite dans le silence à la Trappe.
Toujours dans la même abbaye, à Sainte-Marie du Désert.
Toujours au même endroit, à Sainte-Marie du Désert. Et pendant le repas, le jeudi saint, le père hôtelier, le père Grégoire, est venu me dire à l'oreille, le père abbé veut te laver les pieds. Et je me suis retrouvé de nouveau, je crois que c'était au réfectoire du monastère. On m'a lavé les pieds, le père abbé m'a lavé les pieds.
Alors qu'est-ce que vous en avez conclu ou qu'est-ce que ça a trouvé comme écho dans votre cœur ?
Quelques années après, quand j'étais diacre, mon curé m'a demandé de prêcher le jeudi saint. Et quand j'ai lu le récit du lavement des pieds, je me suis souvenu de ces deux histoires-là. À 30 ans d'écart, au même endroit, le père abbé m'avait lavé les pieds. C'était un autre père abbé, c'était une autre église, c'était un autre monde. Tout était changé, mais il y avait cette insistance du lavement des pieds. Et comme le lavement des pieds, c'est un peu le signe adopté par les diacres, ou l'insigne, j'ai vu comme un signe que le lavement des pieds, ça devait être aussi mon appel, laver les pieds de mes frères, les servir.
Alors vous l'avez fait, hein, on ne va pas refaire votre biographie, mais en tout cas vous y êtes essayé. Vous me disiez que pendant les 10 années que vous avez passées au Maroc comme diacre, vous avez été surtout à visiter aussi les prisonniers, que les prisons au Maroc, ça n'a rien à voir avec les prisons chez nous, et déjà les prisons chez nous c'est pas toujours très heureux. Vous avez été aumônier de prison pendant près de 40 ans en France, vous avez accompagné les gitans, bref. J'aimerais qu'on finisse par il y a un passage dans votre livre, vous racontez qu'à l'occasion justement d'une retraite, toujours à Sainte-Marie-du-Désert, vous avez trouvé un livre sur le père Joseph Wrzesinski, immense figure s'il en est de la charité, fondateur d'ATD Quart-Monde d'une certaine manière, un homme qui était lui-même, on va dire, issu de la misère et qui comprenait en fait probablement l'évangile avec un tout autre regard. Pendant la nuit, vous avez fait un rêve avec deux échelles. La première, c'est celle de l'ascension sociale. Voilà, ça, personne, tout le monde comprendra. Et puis, il y avait une autre échelle, vous l'appelez l'échelle de Jacob, ou on va dire peut-être votre échelle. Bref, racontez-nous cette échelle et surtout ce que vous avez vu dans votre rêve.
Oui, c'est un événement dans ma relation au monde de la pauvreté. J'ai découvert que eux, ils étaient l'Église. Quand je vais sur un terrain chez les gens du voyage, je suis pas l'Église qui va vers eux. C'est moi. Je rejoins l'Église parce que l'Église est l'Église des pauvres. Les pauvres, c'est l'Église. Les pauvres sont la chair de Jésus, dit le pape. Donc quand je rejoins les pauvres, je rejoins la chair de Jésus. Alors ces deux échelles. Elles étaient complètement contradictoires. La première, c'était l'échelle des couches sociales. De par ma naissance, j'appartiens à la couche qui est en haut. Mais l'autre échelle, en haut, ce sont les pauvres. Et ceux qui avant étaient en haut, ils sont tout à fait en bas et ils essaient de monter. Et pour arriver à monter, il faut se dépouiller, il faut s'alléger, il faut s'appauvrir.
Et alors dans votre rêve, les pauvres adressent des paroles comme ça aux riches, mais laisse ta valise, débarrasse-toi de ton sac, vide donc tout ce que tu as dans tes poches, ne regarde pas derrière toi, etc. etc. Est-ce que vous pouvez préciser un peu plus ce rêve qui ressemblait un peu à un songe quand même?
C'est la parabole de la porte étroite, du chemin étroit. Il nous faut nous débarrasser de nous-mêmes, de ce qui nous encombre. Il faut devenir petit, devenir comme un enfant. Un enfant n'a rien. Un enfant n'a rien en propre. Et oui, c'est les pauvres sont l'Église.
Je vais vous citer et puis vous citez vous-même le pape Jean XXIII. Les pauvres sont en avance sur nous, ils sont déjà conformés à Jésus, rejetés, marginalisés ou exclus, méprisés, injuriés et calomniés. Ils lui ressemblent, ils sont l'Église, son corps. C'est ce que dit le pape Jean XXIII à l'ouverture du Concile Vatican II. L'Église est l'Église des pauvres. Merci beaucoup Arnaud de la Portalière d'être venu au micro de Vivante Église ce matin. Je rappelle une dernière fois le titre de votre livre, Enquête sur une ombre suivie de fausses routes, paru à Compte d'auteur, on peut le trouver, et j'aurais dû le dire avant, je vous prie de m'en excuser, à la librairie Siloé à Toulouse. On n'est pas obligé de se déplacer, on peut tout simplement passer un coup de fil pour le commander, parce que voilà, le prix de ce livre, 7 euros, prix modeste, contribuera donc à la construction d'un centre de migrants à Meknès. Voilà, vous viendrez en aide à ces migrants dont vous avez parlé. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.